Éphémère 89.1 Radioactif.
Le Festival des Cultures d'Asie est de retour du 4 au 20 février. Made in Asia. Danse, opéra, arts plastiques, théâtre, cuisine, médecine traditionnelle, musique, cinéma. Pour sa 4e édition, Made in Asia met à l'honneur la Corée du Sud. Made in Asia vous invite à découvrir une scène artistique bouillonnante à travers une centaine de spectacles pour petits et grands. Du 4 au 20 février à Toulouse. Info, festivalmadeinasia.com. Un autre regard sur le monde.
Made in Asia, en partenariat avec Radio Éphémère, retrouvez nos chroniques et les artistes du festival sur nos ondes tous les jours du 3 au 11 février 2011, entre 12h et 13h.
Radio Éphémère, nous sommes samedi 29 janvier 2011, nos programmes pour cet après-midi. À 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Jano Dead. Et à 17h, Éphémère, c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le magazine festivalier que vous attendez tous.
Radio Éphémère présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Et bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez compris donc que, règle essentielle et élémentaire de la radio, il ne faut pas s'amuser à faire la très grosse voix quand on a bien dormi. Dommage, du ça. Ouais, mais je l'ai déjà fait une fois, tu sais, avec la voix, avec des burnes, et en fait non. Donc voilà, bonjour et bienvenue. Donc effectivement, ce week-end, c'est le festival d'Angoulême, un festival international de la bande dessinée qui a lieu, et nous sommes à Toulouse. Et ben non, nous serons en direct d'Angoulême, puisque Ultimatum fera donc son rapport en tant qu'envoyé spécial, et il aura une partie du palmarès, du moins le palmarès, du prix du Conseil Général des Jeunes de la Charente et Actua BD. Puisque vous savez que nous sommes associés avec Actua BD comme d'habitude pour la couverture du festival d'Angoulême et plein d'autres choses. Mais on va commencer non pas immédiatement par ça, mais on va peut-être plus s'intéresser à ce qui va arriver la semaine prochaine à Toulouse et dans nos programmes, puisque vous le savez, puisque vous avez entendu la bande-annonce juste avant le début de cette émission. Il y a donc le festival Made in Asia qui aura lieu du 4 au 20. C'est le festival des cultures d'Asie. Cette année, le pays invité, c'est la République de Corée, à savoir la Corée du Sud. L'autre, c'est la République démocratique. Avec, comme d'habitude, un programme assez costaud et vraiment passionnant. Ça, je pense que vraiment, on va avoir des trucs hyper bien foutu. Il y a notamment une grande découverte, c'est celle du pansori, c'est le chant traditionnel coréen. C'est-à-dire on a une personne, une femme en général, qui dit, je crois que ça a toujours été des femmes d'ailleurs, qui raconte en général soit un conte, soit une légende, soit une saga, soit une histoire, soit un drame, avec des envolées lyriques vraiment impressionnantes et accompagnées d'un seul tambour. Donc c'est présenté, il faut savoir qu'il y a Minghye Song qui sera présent pour faire justement une représentation qui sera surtitrée, c'est-à-dire que vous aurez en fait un sous-titrage de traduction lors de la performance, ce qui permettra donc de suivre. Et si vous voulez en découvrir un peu plus, le drame, la chanteuse de pansori de Kim, Dim Kyung-taek, excusez-moi pour la prononciation encore une fois, le film sera projeté donc à la Cinémathèque de Toulouse dimanche prochain. Drame qui est assez profond et qui est très 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 beau. Enfin oui, bon, j'avoue, je ne l'ai pas vu, mais il y en a qui me disent que du bien. Et d'ailleurs, la Cinémathèque, il y a vraiment un programme où il y a de tout. Il y aura du grand classique comme Les Corrompus, Dim Kyung-taek, ou encore La Vallée de Pia, et à côté, je vais dire, des films qui seront plus, je vais dire, font plus triper du sport et ultimatum, comme par exemple Sympathie pour Mr. Vengeance de Park Won-hook, ou encore Lady Vengeance de Park Chan-wook, encore, excusez-moi pour la prononciation, je suis désolé. Bref,
je note.
Bref, il y a vraiment du lourd, du costaud et de l'intéressant de ce côté-là. Il y aura aussi une soirée de court-métrage qui aura lieu à l'ABC, et le Memento Mori de Kim Tae-yong et Min Kyu-dong. C'est pas vrai, en plus je l'ai répété 4 fois avant. Et plein de films, donc toujours à la Cinémathèque, au cinéma Rex à Blagnac, mais aussi un programme court, un programme de court-métrage pour la jeunesse au cinéma de Colomiers, avec en métrage traditionnel le Mari Yagi de Lee Seung-gang, qui est visible dès l'âge de 6 ans. Ce sera donc à partir de la semaine prochaine au cinéma Le Central de Colomiers, dont nous recevrons justement Marie la semaine prochaine pour en parler, pour parler justement de ce programme jeune public. Ce sera samedi prochain dans le suppléant week-end. Il n'y aura pas que de la Corée, même si on parle aussi de médecine, de cuisine et tout ça, puisque vendredi soir, Kanishi, le grand pape de la techno japonaise, sera en concert au Bikini. Et en direct, en simultané sur Radio FMR. Je peux vous dire que waouh, déjà on en est super fan. Le nouveau cirque du Vietnam qui fera donc une présentation pour dire que c'est pas cantonné exclusivement à la Corée du Sud, et plein d'autres choses extrêmement intéressantes, des arts plastiques, de la danse contemporaine, des performances soit de tissage, soit de peinture, vraiment de ce côté-là c'est assez riche. Bien évidemment, des initiations à la langue, à la culture, un cycle sur le bouddhisme au musée Georges Labitte. Bref, encore une fois, ça va être quelque chose de vraiment bien foutu. Et donc Radio FMR est partenaire du festival Made in Asia cette année, encore une fois, puisque toute la semaine du 3 au 10 février, dans les magazines culturels et programmes impromptus qui ont lieu de midi à 13h, dont le suppléant week-end font partie, il y aura donc différents intervenants. Il y aura des interviews, Didier Kimoun par exemple, qui va présenter de manière générale le festival vendredi dans le magazine des arts visuels de Kinou. Il sera question de magie noire et de magie blanche avec l'artiste Kim Sang-lang dans le magazine, donc ça va être assez amusant, je pense, puisqu'il faudra que ça soit doublé en même temps. Le concert de Kanishi vendredi prochain, donc samedi, je vous ai dit.
Bah, Kanishi, je croyais qu'il était japonais, moi.
Oui, mais justement, c'est pas exclusivement coréen, hein, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit plus d'une fois d'ailleurs.
Alors, devinez où sera Xavier vendredi prochain.
Peut-être si je suis pas trop malade, peut-être pas seulement au poste de radio, mais au bikini en train de triper, parce que voilà quoi.
C'est... Absolument.
Parce que Kenichi a vraiment une particularité. Il était déjà venu d'ailleurs, il me semble.
Hein, oui.
Il a vraiment une particularité, c'est qu'il mêle la musique traditionnelle avec la techno. Il est capable de faire des trucs vraiment purement dance floor, et il est capable de faire quelque chose beaucoup plus expérimental, beaucoup plus éthéré. Et puis bon, il a une carrière de 20 ans puisqu'il a commencé en 91-92 si je me souviens
bien.
Ouais,
c'est un des précurseurs. Hein.
De ce côté-là, c'est vrai, il est vraiment, enfin, il est vraiment dans cette philosophie. Je veux dire shintoïste du Japon, c'est-à-dire de mélanger le traditionnel et l'hyper technologique, de ne pas faire vraiment de séparation entre ce qui est la technologie pure et l'humain ou bien les animaux et tout ça. Pour eux, justement, l'électronique peut avoir une âme tout aussi bien que justement les êtres vivants. On a parlé, Thomas, on avait parlé plus ou moins justement avec les yokai. Puisqu'il aura fait une interview, il va en parler tout à l'heure à propos des yokai français. Vous verrez ça, je suis un petit peu confus dans tout le reste, mais si vous écoutez le supplément au week-end, vous aurez compris un petit peu justement tout ce mélange culturel qui est en train de que l'on cultive avec un immense, immense, immense plaisir. Le festival Made in Asia, plus d'informations sur festivalmadeinasia.com. Voilà, c'est un CD qui est mal parti. Ça nous arrive, hein, après tout. On est sur Radio FMR 89.1. Je ne sais pas, avant que l'on envoie quand même Thomas pour la suite sur le festival d'Angoulême, peut-être du sport, tu vas parler un petit peu d'une série que tu n'as pas eu le temps de parler la semaine dernière. Je ne sais pas, puisque en fait Thomas va commencer à 12h30. Il a un emploi du temps assez serré.
Bah, tu me prends au dépourvu là. Carrément.
D'accord, alors je te laisse le temps dans ce cas-là. On va commencer mais par la bande dessinée, mais pas, je vais dire, en allant directement en Angoulême, mais en parlant toujours de Toulouse. Je souhaiterais personnellement rendre un hommage à Gilda Raffelli. C'est un nom qui vous dira pas grand-chose. C'est celui d'une libraire de bande dessinée. Plus exactement, c'est la patronne de la librairie Arcade, qui est sise en face du Capitole, de la mairie de Toulouse, sur la place du Capitole. C'est une librairie toute petite qui paie pas de mine. Je sais pas, elle doit faire 30 mètres carrés, très grand maximum, hein, 20 mètres carrés en fait. Hein. On se demande comment tant de choses peuvent y rentrer. Puisque ça consacre quand même, c'est une librairie BD qui consacre la moitié de sa toute petite surface aux journaux et aux magazines. Car la bande dessinée, Gilda, elle a commencé un peu par hasard, sur recommandation d'étudiants qui cherchaient à se procurer des albums de la rubrique à braque de Gottlieb. Ça remonte, hein, c'est en 70. Et au fur et à mesure, elle a commencé à commander d'autres albums, puis à fournir d'autres libraires de la région et des libraires et des bibliothèques publiques. Arcade devenait une librairie spécialisée bande dessinée, l'une des toutes premières en France, riant de quelques mois la politesse, la si mythique Futuropolis. Je crois que l'autre plus vieille dans librairie BD, c'est la librairie Parenthèse à Nancy. Et au fur et à mesure, elle a commencé, à se faire un nom. La toute première librairie purement BD en France a été fondée en 1966 à Paris, et elle s'appelait Le Kiosque. Tiens, encore un point presse. Et oui, on oublie un peu trop que la bande dessinée, au départ, c'était les illustrés.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que bon, il faut quand même remonter vachement de temps en arrière et se dire que dans ces années-là, c'est-à-dire les années 60 et surtout vers la fin des années 60, c'est là qu'il y a eu, on va dire, pas la première, mais la deuxième explosion de la bande dessinée. La première, elle avait lieu un petit peu après la guerre, avec justement ces imprimés dont tu parlais, le journal de Tintin, le journal de Mickey, puis plus tard Pilote, Spirou bien entendu, mais qui restait cantonné quand même à un certain style de bande dessinée, on va dire, assez familial. Et vers la fin des années 60, le journal Pilote a un petit peu instillé un nouveau genre, a lâché un petit peu la bride aux auteurs qu'elle avait engagés, surtout grâce, on va dire, à René Goscinny, qui était quand même un petit peu le patron de Pilote à l'époque. Et on a pu justement avoir une espèce d'explosion de la bande dessinée dans tous les genres, dans tous les styles, et sans pratiquement aucune retenue. J'allais oublier également les Trublions, un petit peu anards, un petit peu anti-tout, qui étaient vraiment de leur côté, c'est-à-dire la bande à Harakiri, Charlie Hebdo, qui ont également mis le fil à la patte, le pied à l'étrier, pardon, à pas mal d'auteurs de bandes dessinées, qui d'ailleurs doublonnaient de temps en temps. Reiser dessinait aussi bien dans Pilote et dans Charlie Hebdo. Il y en a eu d'autres comme ça, GB, pour citer les plus connus, Gottlieb aussi.
Sans compter qu'au même moment, on est en 70, au moment où, Gilda va commencer à s'intéresser à la bande dessinée. Et on a Fantasque qui paraît. Donc la bande dessinée américaine qui commence à arriver en France avec les 4 fantastiques qui seront censurés par la sinistre loi sur la publication jeunesse de 1949. Donc on commence à entrer dans la bande dessinée underground,
underground
de ce côté, côté-là, et une bande dessinée un petit peu adulte qui commencera.
C'est ça. Et il y a également la bande dessinée adulte avec Wolinski, Paulette et tout ça. Et tous les autres. Et de ce fait, du fait que cette production, en l'espace de quelques années, elle a carrément explosé. Il fallait trouver un support qui permette de garder ses œuvres, parce que on connaît pas beaucoup de gens qui ont encore leur collection complète de Tintin, de Spirou, de Pilote depuis les origines. Donc tu parles de la rubrique Abrac de Gottlieb, qui était le déclic pour Gilda. En fait, cette rubrique Abrac, avant d'être en album cartonné, elle passait chaque semaine dans le Pilote, dans chaque numéro de Pilote. Donc on était obligé d'attendre et le numéro prochain, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la prochaine rubrique Abrac et tout. Et là aussi il y avait ce petit parfum de d'attente qui
le plaisir de la prépublication.
Voilà, c'est ça. Mais c'est plus le cas maintenant, tellement quoi, je veux dire, les hebdomadaires, voire les mensuels propres de BD, sont plus ou moins cassés la gueule, on va dire. On était obligés de faire du texte, de contexter un petit peu le format pur de la bande dessinée. Mais il n'y a plus vraiment de publication comme ça.
Il reste Spirou. Il y a l'immanquable qui essaie de de relancer ça pour le festival d'Angoulême et plein de revues, mais c'est vrai que toutes les grandes revues de bande dessinée ont disparu depuis les années 80.
Voilà, il reste encore les underground, qu'on pourrait les appeler, les francs-tireurs, tel le psychopathe, tel Fluide Glacial, on va quand même le citer.
Donc voilà, donc c'est ça donne un petit peu une idée d'une évolution. Et pendant tout ce temps-là, la surface de la librairie Arcade n'a presque pas bougé. C'est toujours aussi petit. Les rayonnages rivalisent d'imagination pour proposer leur offre dans les rares mètres carrés qui n'étaient pas occupés par les journaux étrangers ou les revues. Gilda Raffelli, je suis passé la voir jeudi, par politesse, tout comme par amitié, car nous nous connaissons depuis pratiquement 18 ans. Elle me racontait qu'elle en avait marre des interviews, c'est pour ça que je n'en fais pas. Que la dernière était pour Métro. C'est plutôt ironique qu'un journal gratuit distribué par Porteur, des fois devant son commerce, fasse un article sur la fermeture d'un point presse. Une rumeur prétendait que cette toute petite librairie 6 Place du Capitole vendait le plus de bandes dessinées au mètre carré en France. Et comme c'est un point de vente presse, il faut imaginer qu'il y a quelqu'un dès 5h du matin pour recevoir les journaux et magazines, et qu'on voyait souvent la boutique allumée, même fermée, après 21h. Ça vous donne une idée du rythme de travail. Sans compter l'immuable arrivée du journal Le Monde à 17h. La petite pancarte, Le Monde est arrivé, accrochée à l'entrée. Vous aviez quelqu'un de la mairie qui arrivait pour prendre la moitié du tas. Mais tenir un point presse occupe aussi, au point de rarement prendre des vacances. L'envie de prendre du repos devait lui trotter depuis un temps. Puisque cela fait 2 ans qu'ils parlaient de mettre en vente les locaux. Monsieur Raffelli, lui, a quitté la boutique depuis un temps. Madame Raffelli avait toujours la passion de son commerce, son sourire illuminant la boutique, heureusement aidée quand même d'une petite équipe. Mais visiblement, ça devait lui faire drôle de dire à ses clients que non, tel ouvrage elle ne l'a pas, qu'elle ne le recommandera pas. Comme ça, en plein festival d'Angoulême, elle va tirer la grille une dernière fois et laisser sa place à un glacé italien. Son fils a préféré tenter l'aventure dans un magasin d'informatique. Sa fille avait lancé la librairie B dessinée, distante d'une vingtaine de mètres, mais a vite délégué la gestion. Cette librairie a depuis intégré le groupe des librairies Album. À 70 ans, faute de repreneur pour la librairie Arcade elle-même, monsieur et madame Raffelli ont dû se résigner à vendre la surface commerciale, fermant de fait une enseigne où la relation client, le conseil, était important, tout comme la joie et le respect de recevoir les auteurs en dédicace. Donc, par ce petit brin de discussion, je remerciais de ses conseils et de son amitié Gilles Raffelli. Je lui ai dit qu'elle aurait enfin la possibilité d'assouvir le fantasme des libraires, d'y lire les BD qu'elle a vendues. Elle m'a dit qu'elle était avec impatience sur Magasin Général, car elle avait promis à Régis Loisel, chaque fois qu'il était venu pour dédicacer, et ben elle avait promis de le lire. C'est un peu ça le paradoxe d'une librairie BD qui a organisé bien des séances de dédicace et qui était une amie des auteurs qu'elle invitait. Elle n'a presque jamais eu le temps de lire les livres qu'elle conseillait. Aujourd'hui, samedi, à 20h, alors qu'à Angoulême, le 9e art fait sa fête et fait son festival, sous la pluie et le froid, fermera la librairie Arcade à Toulouse. Pour Madame Raffelli, je ne peux que lui souhaiter de profiter d'un repos bien mérité pour ouvrir quelques livres. CD partent tout seul, c'est un petit peu pénible, voilà. Que l'on parte pour Angoulême, et ben d'Hervé Baruléa, qui signe sous le nom de Baru. Il est né en 1947 et donc c'est le président cette année du festival de la ville d'Angoulême. Et c'est en 82 qu'il publie ses premières histoires en professionnel dans la revue Pilote, puis dans l'Écho des Savanes. Son premier album de la série Kékette Blues, dont l'ensemble de la série a été réédité sous le nom de Roulé Jeunesse, aura un prix espoir à Angoulême en 85. D'ailleurs, il dit dans ses interviews qu'il doit beaucoup au festival, qu'il a toujours accompagné favorablement dans sa carrière. À mon avis, c'est pas pour ça. C'est plus parce qu'il est doué. Mais il est modeste. Ses autres livres parlent toujours de la classe ouvrière, des immigrants italiens, comme sa propre famille, de sa jeunesse désœuvrée, sans réelle illusion, mais à la recherche d'un vent de liberté, comme dans « Cours camarades » et « Le chemin de l'Amérique », l'indépendance algérienne scénarisée par Jean-Marc Thévenet, qui sera par la suite directeur du festival et pour lequel il aura le prix du meilleur album à Angoulême. En 90, son Sur la route va taper dans l'œil d'un éditeur japonais le plus important de tous. Car le livre qui l'a amené à une nouvelle notoriété, c'est L'autoroute du soleil. Initialement créé pour le public japonais à la demande de l'éditeur Kodansha qui essayait de renouveler le manga en faisant venir des auteurs franco-belges, il est réadapté et publié dans la collection naissante manga de Casterman. En coulisses sans réelle conviction par l'éditeur, imaginez un éditeur français qui rend une œuvre de plus un auteur français qui rend une œuvre de plus de 400 pages en noir et blanc en un seul bloc au format A5 sur un papier bas de gamme. On est loin de la collection, des canons de la collection à suivre. Là où au Japon, il fera partie des rares dessinateurs français à rester jusqu'au bout de l'expérience Kodansha. Les autres n'ayant réussi à convaincre le lectorat, l'album fera un carton en France. Il aura l'alphard du meilleur album francophone à Angoulême en 96. Il fera une autre série en 4 tomes. Les années Spoutnik, qui sont celles des années 1950, et d'un communisme triomphant dans les cieux, mais les premières fermetures d'usines qui ruineront le Nord. Puis avec l'enragé, il parle de l'envie de sortir des milieux ouvriers pour un boxeur. Toujours le thème de l'assommoir. Sa présidence est aussi l'occasion pour les éditeurs de ressortir ses anciens albums. L'excellente idée est venue des éditions Les Rêveurs avec Villerupt 1966, un coffret qui réunit les premiers albums Keket Blues, La Piscine de Micheville et Vive la Classe avec un documentaire en DVD sur Baru par Jean-Luc Muller, ce qui n'empêche pas de continuer à sortir des albums comme son Fait péter les basses Bruno en novembre dernier, Polar Comédie sur le milieu de l'argent roi par excellence, le football, est brutalement confronté à la réalité de son public. Baru a été choisi par les précédents présidents du Festival d'Angoulême pour le Grand Prix de la Ville 2010, ce qui veut dire qu'il préside cette année le Festival d'Angoulême et donc le jury des prix des TIFOF bien évidemment, mais aussi l'exposition sur son œuvre intitulée DLDDLT, Debout les damnés de la Terre, avec une statue de Lénine mise à terre. Baru, c'est aussi l'hyper-présidence. Il est franchement actif cette année dans les médias durant le salon, enchaînant les directs ou les sujets de fond comme l'émission Métropolis, diffusée ce soir sur Arte. Les sujets qui l'intéressent concernent les classes ouvrières, la jeunesse des abusés, la révolte et donc le rock and roll. Son dessin est jeté, regorge de gueules, des gueules de cinéma, des gueules cassées, des gueules noires aussi. Voilà, alors on me fait signe que Thomas aura un petit peu de retard, puisque en fait, pour rien vous cacher, il est à une interview dans une autre radio et normalement ils doivent enchaîner avec un sujet télé. Donc pour notre direct, on va être, je pense, un petit peu décalé. Mais en attendant, allez, petite dédicace à Baru, il connaît sûrement Les Vents Passent. Hélicoptère, extrait de l'album Rock'n'Roll.
Hélicoptère, c'est peut-être écrasé sur ma bouche. Je n'ai jamais trop su quoi faire. Chaque fois qu'une fille me touche, c'est comme si un hélicoptère s'était écrasé sur ma bouche. Je n'ai jamais trop su quoi dire. J'ai bien trop peur que ça me touche. Mais je ne t'en voudrais jamais. Non, je ne t'en voudrais jamais. C'est drôle, mais les hélicoptères, j'y pense quand je suis sous la douche. C'est vrai, j'aimerais bien faire comme eux, décoller la tête à l'envers. C'est vrai que les hélicoptères, on a beau dire, on trouve ça louche. Quand on a les deux pieds sur terre, et que sont déjà dans les airs. Mais je ne t'en voudrais jamais. Non, je ne t'en voudrais jamais. Mais il n'y avait que du sable, des princesses et des que ça peut faire quand on a la tête à l'envers. Je ne t'en voudrais jamais. Je ne t'en voudrais jamais. Mais il n'y avait que du sable, des princesses et des mirages. Il n'y avait que du sable, des princesses et des mirages.
Eh ben, nous avons entre guillemets, ben Thomas, du coup, tu es en train de galoper ?
Pas encore, on est encore à l'Hôtel Mercure, on vient de finir une émission sur une radio concurrente.
Non,
c'est pas... Radio 12. Et voilà, donc nous avions, nous étions en présence des 5 jeunes élus du Conseil Général de Charente avec l'éditrice d'Ankama qui a obtenu quelque chose, on parlera tout à l'heure.
Voilà, donc notre radio, on peut leur faire un coucou. Donc c'est quelle émission, sur quelle radio?
Alors il s'agit de Radio Attitude et l'émission, ben, elle n'a pas été précisée, donc c'est Radio Attitude, voilà.
Il y en a qui ne savent pas faire leur boulot, mince, ça rappelle à des professionnels. Bon Thomas, bah, du coup on va te reprendre après la chronique de Du Sport, du coup qui va devoir le prendre au pied levé.
Pour le D'accord, coup, après on va dire mercredi soir avec Marc Dacascos.
Ouais. Pas cette semaine,
te dit-il. Voilà, donc environ vers 13h si c'est possible.
D'accord, je vous dis à tout à l'heure.
À toutes. Du sport, du coup, tu es obligé de prendre au pied levé.
Eh ben, ça roule.
Vas-y.
Alors, de la télé avec une série inédite cette semaine. et qui est pas vraiment vraiment inédite car on a déjà pu.
On en a pas parlé parce que je sais que tu vas faire un zapping.
Oui.
Juste une chose, ce soir, France 4.
Si tu le dis, oui.
Bah oui, et puisqu'il repasse les 3 épisodes de la première saison de Sherlock.
Oui, 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 de toute façon, mais bon, j'en parlais plus parce que bon, bah ça me paraissait une évidence. C'est d'ailleurs ce soir le premier épisode et.
Les 3 d'un coup.
Oui, non, mais le premier
et
épisode.
Et une adaptation sur Polar.
Le premier épisode des 3 de ce soir, hein, c'est une étude en rose qui est donc en fait le premier livre sorti. Par Arthur Conan Doyle sur les enquêtes de Sherlock Holmes. Hein. En fait, le vrai titre, c'est Une étude en rouge. Mais on sait que le travail d'adaptation et de mise en forme et de modernisation, car ce Sherlock Holmes hein, qui est diffusé actuellement sur France 4, eh bien, se passe de nos jours. Il y a même le deuxième épisode où Sherlock est attaqué par un ninja et tout. Enfin bon, c'est assez délirant quand même. C'est assez délirant. Mais c'est vraiment très très bien foutu. Et c'est là qu'on remarque, et c'est là que bah, on s'en rend encore une fois compte. On vous le dit assez souvent d'ailleurs, et on le répétera encore assez souvent. Hein, le travail d'adaptation qui peut être fait par les auteurs anglais hein, est absolument remarquable. Là, on voit vraiment qu'il y a du boulot, hein, qu'on ne traite pas ça par-dessus la jambe et tout comme certaines séries françaises, franco-françaises, on va dire. Là, ça vaut vraiment son pesant de cacahuète. Donc c'est ce soir. Mais sinon, moi, je voulais parler bien de cette série qui s'appelle The Good Wife, qui était sorti un petit peu en catimini, on va dire, sur une chaîne d'un bouquet concurrent à Canal+, voilà, on va le dire.
Hein ? Un truc disparu.
Un truc qui est bientôt disparu, on va dire, et qui bon, bah, n'a jamais vraiment trouvé son public. Et c'est M6 qui reprend la main et qui nous le met en prime time jeudi prochain à partir de 20h40, donc en lieu et place de Lie to Me, qui est arrivé un petit peu à son terme. Bon, on va dire peut-être que pour Lie to Me, c'est pas dommage, hein, si on peut revenir un petit peu sur cette série. Parce que bon, si la première saison était vraiment assez bonne et tenait d'ailleurs.
Bah, il y avait deux choses qui marchaient.
Oui.
Tim Roth. Et l'idée du montage avec les photos de presse.
Oui.
Après.
On a bien essayé d'instiller quelques histoires personnelles en fil rouge, le retour de l'ex, la maman de la fille. Et tout ça, mais bon, vers la deuxième saison, ça avait déjà un petit goût de réchauffé et tout. Bon, c'était plus vraiment très très passionnant. Bien que Tim Roth tenait quand même la baraque. Hein.
Avec des mimiques et tout ça, il cabotine à mort. Il envoie du pâté, quoi.
Ouais, non, mais là il y a pas de problème. Et donc, en lieu et place de Lie to Me, eh bien, vous aurez droit à The Good Wife. Et au retour de Docteur Attaway, l'infirmière Attaway, pardon.
L'infirmière
Attaway, Carole Attaway, dans Urgence, Juliana Margulies, le premier amour du Docteur Ross, tout au début de la série. Rappelez-vous, ils sont ensemble. Ils vont se séparer, malheureusement. Mais ceci est une autre histoire. Et Juliana Margulies, on l'a vu apparaître, du fait de sa popularité grandissante grâce à cette série IA. On l'a vu dans quelques films de seconde catégorie, il faut bien l'admettre, voire dans certains téléfilms. Et là, elle a quand même réussi son coup, car avec The Good Wife, elle a sa série, elle est le personnage principal. Mariée à un politicien qui vient de se faire dégommer dans une sombre histoire de corruption et de sexe, elle doit reprendre du service. Elle était devenue femme au foyer, elle s'était dit « je reste dans l'ombre de mon homme, pas de problème et tout ». Elle va reprendre son ancien boulot, avocate. Voilà,
encore,
quel est le pitch.
Encore une série procédurière.
Pas tant que ça, on va dire, parce que c'est quand même un avocat qui ne se contente pas d'être lui-même et qui agit dans les prétoires, mais qui également en dehors paye de sa personne, dans le bon sens du terme, bien entendu. À ses côtés, on a Chris Noth, qu'on voit absolument partout maintenant. Faut dire que Mr. Big, ça lui a bien servi quand même. C'est pas les quelques dizaines d'années, une dizaine d'années pratiquement, 5 ans dans la série Law and Order qui lui ont servi à quelque chose. Pas grand chose, vraiment pas.
Enfin, si, quand même, ça l'a imposé. C'est vrai qu'il a un rôle sérieux parce que après, quand il a fait Mr. Big, ça aurait été difficile après de faire justement un truc aussi dur.
Oui, c'est également ça qui lui a permis de revenir dans une autre déclinaison, dans un spin-off de la série Law and Order, hein, dans Section Criminelle, pour remplacer un petit peu, au pied levé, on va dire, un Vincent D'Onofrio défaillant, pour ne pas dire plus. Voilà. Et donc, bon, bah, Chris Knott se retrouve de nouveau bien placé donc dans cette série de Good Wife. On a également Archie Panjabi. C'est une fille, c'est pas un mec, hein, Archie Panjabi. Et Josh Charles dans cette série The Good Wife qui sera diffusée donc sur M6 jeudi prochain à partir de 20h40. Deux épisodes, bien entendu. Vendredi, eh bien, il va falloir faire un choix entre les épisodes d'enquête de Scotland Yard, Crime sur la Tamise, qui est diffusé depuis un certain temps sur Canal Jimmy, complètement dans le désordre. Ils ont commencé par les épisodes, enfin c'est des téléfilms les plus récents, et là, eh bien, ils remontent très très loin.
Ils ont passé les premiers qui n'ont jamais diffusé d'ailleurs.
Voilà, ils remontent très très loin, ils passent les premiers épisodes, enfin les premiers téléfilms de cette série instillée par Linda Laplante, et qui ont l'air d'être qui sont vraiment excellents.
Bah, vraiment, non seulement excellent. Ils sont excellents, mais je reste très surpris de l'horaire de diffusion, parce qu'à 20h40, celui d'hier avec les...
Ouais, la deuxième partie d'hier.
Oh là là. Oh là là, ah non, c'est... Ouf.
Et tu seras encore plus surpris quand tu sauras que...
Je te rappelle qu'on a un prix jeunesse tout à l'heure, donc ce téléfilm, on reste soft. Hein,
ce téléfilm en deux parties, hein, Meurtre diabolique, est rediffusé en fin d'après-midi, cet après-midi, sur Canal Jimmy. Faut le faire quand même. On va pas raconter ce qui s'y passe parce que c'est vraiment très glauque. Hein,
C'est de ce côté, ce côté-là, même à la différence des séries américaines. En plus, ils montrent donc les trophées.
Oui, c'est montré, hein, c'est montré. Quoi. C'est... Donc bon, ouais, il y a pas de problème, d'accord. Ok. Et il faut dire que Ian Glen dans le rôle du personnage de Morton là est vraiment excellent. Et
rien à redire.
Celui qui va être diffusé vendredi prochain est également un des premiers, hein, c'est-à-dire c'est une série qui a commencé en 1999, la même année, et celui de vendredi prochain aura comme on va dire guest star principal Richard E. Grant. Donc ça peut également valoir son pesant de cacahuètes. Et si vous vous demandez qui est le coupable, ça paraît être une évidence que ce sera Richard E. Grant. Enfin bon, reste à David Heyman à savoir comment le démasquer et le confondre. Mais par contre, vu l'horaire, hein, tu viens de le citer, hein, c'est tous les vendredis sur Canal Jimmy à 20h40. Et là, bien, vendredi prochain, il va falloir un choix très cornélien. Pour moi, il est déjà fait. Hein, bon, bah ok, hein, parce que les Scotland Yard, Crimes sur la Tamise sont rediffusés, donc il y aura possibilité de les revoir.
Ah oui, c'est vrai que toi, t'es chez un opérateur qui propose pas un magnétoscope.
Mais par contre, sur Arte, vendredi, eh bien, ce sera pas vraiment une deuxième saison, mais plutôt le deuxième jet de ces enquêtes de l'inspecteur Valander. Deuxième mouture, ouais. Celle de Kenneth Branagh. Qui revient donc avec trois nouvelles enquêtes, deux qui sont tirées des bouquins de Henning Mankell, donc qu'on a pu voir peut-être dans la série originelle, la série suédoise, mais le troisième est un scénario complètement original. Alors si on peut faire un petit peu la différence,
c'est assez amusant parce que c'est Paris Première, je crois, qui diffuse série originelle le dimanche soir.
C'est le dimanche soir, hein, d'ailleurs. Demain dimanche à 20h35 sont diffusés deux téléfilms. Ce sont des téléfilms, hein, qui durent 1h20, 1h30, de l'année 2006, suivi de L'Africain, 23h40, qui date de 2005. Alors, la petite différence qui peut exister entre les deux séries qui sont issues donc des polars, des livres du même auteur, c'est le traitement des personnages secondaires. La fille de Valander chez Kenneth Branagh, eh bien, elle est en dehors. C'est-à-dire que c'est la fille et tout qui revient dans la petite ville et tout, et qui est malgré elle des fois de temps en temps liée aux enquêtes, alors que dans la série originelle, la fille de Valander est fliquette elle-même et travaille sous les ordres de son père. Et il lui arrive d'ailleurs des désagréments assez importants d'ailleurs lors de certains épisodes. Mais par contre, les deux valent le coup, il n'y a pas de problème, même si on retrouve des fois les mêmes histoires. Hein, donc, mais c'est intéressant de voir quel est le travail d'adaptation qui peut être fait d'une série à l'autre, sachant que l'excellence du personnage principal, que ce soit l'acteur suédois ou que ce soit Kenneth Branagh, est vraiment ne peut pas être remise en cause. Hein, là, c'est vraiment du top niveau. Sans problème. Donc c'est vendredi prochain sur Arte à 20h40, Kenneth Branagh, et le titre de cet épisode s'appelle Meurtrier sans visage. Alors que demain soir sur Paris Première, donc à 20h35, Wallander, enquête criminelle. Ça, c'est la série originelle suédoise. À 20h35, c'est Le Gardien de l'Histoire, suivi à 22h05 de À la Folie, et suivi à 23h40 de L'Africain. Alors, une petite note pour ceux qui aiment bien regarder leur Barnaby le dimanche soir sur France 3, eh bien, sachez que c'est vraiment bien foutu, parce que la fin de Barnaby correspond exactement avec la fin du premier téléfilm de Wallander sur Paris Première, et que donc, vous ne loupez que le premier Wallander le dimanche soir. Si vous avez regardé Barnaby, vous pouvez vous faire les deux autres Wallander à partir de 22h05, 22h10. Voilà, pour les séries, donc je rappelle, Wallander, Kenneth Branagh, c'est vendredi prochain sur Arte, 20h40. Sinon, tous les dimanches en ce moment sur Paris Première, c'est soirée Wallander, la série suédoise. Tu pourrais carrément m'envoyer le générique cinéma, là, à la limite.
Ok. Le grand écran d'argent vous est présenté en Dolby Mono Surround par du sport.
Avec un téléfilm pour commencer qui sera diffusé sur Arte ce soir à 22h25 et qui conjugue bien les passions, les différentes passions que j'ai, car ben, il s'agit de cinéma, de films, mais il s'agit également de sport. Et il s'agit de sport dans le côté déviant. Avec ce téléfilm allemand de Carsten Ludwig qui s'appelle Baston pour un ballon rond et qui est assez récent. Il date
C'est dans les règles du foot.
qui date de 2009 et qui raconte l'histoire de six jeunes paumés qui, dans les années 60, fin des années 60, sont fans hooligans, on va dire, pas vraiment hooligans, mais qui sont fans absolus du club de Braunschweig. Braunschweig qui d'ailleurs a été champion d'Allemagne en 1966-67. Ça remonte à vachement loin, et puis bon, plus personne s'en souvient.
Bon, alors si on y va dans les détails glauques, je tiens à signer. Pourquoi ma blague tombe particulièrement à plat? C'est parce que il y a eu le procès en Serbie à propos du supporter du TFC qui a été tabassé à mort.
Ouais.
Et donc ils ont les hooligans agresseurs ont été reconnus coupables. Voilà, c'est tout ça, c'est pour dire tout mon amour que j'ai pour le ballon rond.
Oui, enfin disons. Bon,
et le glauque autre... du film dont tu vas parler ce soir.
Oui, mais d'un autre côté, ça n'a pas empêché. Le groupe de supporters du TFC dont faisait partie Brice Tatton a se laté la gueule il n'y a pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours sur le pont de Coubertin avant un match du TFC.
C'est l'esprit olympique.
Voilà. D'accord quoi. Donc Baston pour un ballon rond, c'est ce soir sur Arte à 22h25, juste avant Métropolis.
Voilà, avec Baru.
Voilà.
D'ailleurs, justement, dans son dernier bouquin, Fais péter les bases, Bruno, où il est question de foot argent roi, de recrutement à prix d'or, d'Africains, etc., et de mecs qui se retrouvent avec du fric, en veux-tu, en voilà, avec des supporters qui ne comprennent pas qu'ils puissent être payés à ce niveau quand on joue aussi mal. Saine ambiance.
Alors, sur RTL9, à 20h35 ce soir, L'Homme de l'Ouest, un bon Anthony Mann avec Gary Cooper, Julie London et Lee G. Cobb. Et sur CinéFX, c'est un téléfilm de Donald Petrie en 72 avec David Johnson. Souviens-toi, David Johnson, le fugitif, et Barbara Rush, David Johnson, qui est là, un shérif dans une petite ville des États-Unis, mais il y arrive des événements un petit peu spéciaux, car eh bien, des crimes sont commis, et on dirait bien que c'est l'œuvre, non pas d'un homme, non pas d'une femme, mais d'un loup-garou. Ça s'appelle donc Le Loup de la Nuit de Donald Petrie. Ça vaut son petit pesant de cacahuète quand même, hein, ce petit téléfilm qui est passé inaperçu. Et puis, en fait, c'était un petit peu la particularité de Donald Petrie, qui n'a pas vraiment réussi comme metteur en scène de cinéma. Il a quand même fait une dizaine de films, hein, de 65 jusqu'à la fin des années 70. Mmh.
Principalement sur la série B, hein, tout à fait.
Des séries B, mais qui a beaucoup œuvré dans la télé. Il a commencé par la télé, hein, il a fait quelques séries, et c'est toujours plus à la télé qu'il a travaillé. Demain, sur les deux plus grosses chaînes de la TNT, c'est le Full Frontal, avec deux films déjà diffusés, mais on les rediffuse, on s'en fout, parce que c'est quand même des bons films, faut dire ce qui est. Miami Vice sur TF1,
et le grand.
Et le petit lieutenant de Xavier Beauvois sur la 2, c'est pas
grand.
Mal non plus.
Ah, oh, punaise, ah ouais, hein, là c'est costaud. Là, et Miami Vice, vous laissez pas surprendre par le look des personnages quand vous connaissez Croquette et tout ça. Non, non, non. La série est putain de bien remise au goût du jour, et c'est à voir, encore une fois en VO, ça vaut vraiment le coup, et la bande son est magnifique.
Avec quelques petits caméos en plus, quoi, qui sont pas des
Ok,
on vous laisse le caméo s'il en est question dans cet excellent film de Ben Stiller sur TPS Star demain à 20h40, Tonnerre sous les tropiques, absolument magnifique, on dynamite tous,
ah oui,
tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible, avec des citations, en veux-tu, en voilà. Ils se sont bien amusés, ils se foutent de la gueule de pas mal de gens, et il y a même du xème degré, hein, par un acteur qu'on n'aime pas tellement ici et tout, quoi, le king de la scientologie, mais qui fait une apparition magnifique. Magnifique.
C'est là où on voit le travail d'acteur, c'est où ça tient aussi du physique.
Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
D'ailleurs, ne le manquez pas quand il danse pendant le générique de fin.
Ouais. Non, il faut regarder jusqu'au bout, et avec il faut vraiment que le DVD il s'arrête tout seul, ou que le film il s'arrête tout seul. Et on espère que TPS Star met le générique jusqu'à la fin.
Normalement, ils le font, hein. Ils sont pas crades.
Souvent, les mecs ils foutent en accéléré, tu sais quoi, histoire de pouvoir passer les pubs plus vite. Hein. Ça, c'est une maladie récurrente à la télé, de toute façon. Et sur W9, c'est pas mal aussi. C'est Panic Room de David Fincher à 20h40 demain soir, avec Jodie Foster entre autres. Et on a également demain soir deux bons polars, on va dire, hein, sur la chaîne Polar. Tout d'abord, un polar italien des années 70, Échec au gang de Umberto Lenzi, où Thomas Milian, qui est un tueur bossu, doit se venger parce que il s'est fait baiser la gueule, comme d'habitude, hein, une histoire un petit peu classique, mais c'est Thomas Milian, mais c'est Umberto Lenzi, et ça vaut vraiment son pesant de cacahuète, avec également, outre Thomas Milian, Pino Colizzi et Isa Danieli. Et à 22h35, changement radical de style, de continent et de période, avec du sang dans le soleil de Frank Lloyd en 45, et un Jimmy Cagney qui tient toujours la route, hein. James Cagney, de toute façon, c'est un de mes acteurs fétiches, c'est l'un des tout grands acteurs hollywoodiens, de toute façon, il est chargé de découvrir une conspiration, car en tant que correspondant pour un journal américain à Tokyo, eh bien, il se doute qu'il doit y avoir une conspiration qui veut essayer de détruire les Occidentaux.
Il n'est pas correspondant. Il dirige un journal anglophone à Tokyo.
Oui. Avec Jimmy Cagney, donc, et Sylvia Sidney, c'est du sang dans le soleil à 22h35 demain soir sur la chaîne Polar. Lundi, on a sur Arte l'exercice de style parfait de maître Alfred Hitchcock. Si vous voulez savoir comment on tourne un film nickel et tout, regardez La Corde. Hein, 8 plans séquences, wow, que tu crois qu'il n'y en a qu'un seul, mais que quand même tu dis ok, il y a du boulot, allez les gars, vous pouvez toujours vous accrocher. Regardez Le Maître Farley Granger, rien à dire. James Stewart, excellent, et Cédric Hardwick, qui à l'époque n'était pas encore un oubli, donc on ne disait pas encore Sir Cédric Hardwick. La Corde, c'est l'histoire de, rappelle-toi.
Ah non, ça je m'en souviens plus.
C'est l'histoire d'un prof qui explique à ses élèves comment être un crime parfait et tout, et les élèves décident de mettre le truc en pratique. Sur Paris Première, c'est la suite, et j'ai loupé la semaine dernière, et là je suis vraiment désolé de vous parler du film de deuxième partie du lundi soir sur Paris Première. Rappelez-vous, les semaines précédentes, c'était des films de prison de femmes. Oui, eh bien, on avait
dans
loupé
la gelée de groseille.
Oui, on avait loupé le Big Bird Cage de lundi dernier. Eh bien, Paris Première continue pas vraiment dans ce registre, hein, parce qu'il n'y en a pas tellement, faut dire, hein, quand même. Enfin, pas tellement qui soit valable.
C'était vraiment de l'exploitation.
Voilà, là,
avec des filles, on les prend, mais elles n'ont pas le rôle d'acteur tourné.
Ouais, elles ne sont même pas des actrices.
Au fin fond du Kentucky et tout. Enfin,
bon. Non, là, c'est plutôt des films philippins tournés aux Philippines. Mais, par contre, il y a quand même on ne casse pas la ligne, parce que lundi soir, sera diffusé encore un film de Jack Hill, qui a quand même réalisé deux des trois films diffusés sur Paris Première sur les films de prison de femmes. Mais Jack Hill, après ça, ce qu'il a fait, il s'est rendu célèbre dans les films de Blaxploitation. Et lundi, à 22h40, Foxy Brown de Jack Hill avec Pam Grier.
Black Mama après.
Pam Grier, donc, est dans ce film.
Et surtout son meilleur rôle avant qu'elle ait son comeback dans les années 90.
Ouais, enfin bon, il y avait Foxy Brown, mais il y avait également un autre film, je me rappelle pas comment il s'appelle, cet autre film où elle se venge et tout parce que sa sœur est tombée dans la dope et morte à cause des dealers et tout. Qui est absolument magnifique, enfin qui est plus connu d'ailleurs que Foxy Brown, et Pam Grier qui est d'ailleurs qui a été rapatriée un peu des Philippines par Jack Hill pour tourner justement et pour être l'une des égéries de la Blaxploitation, avec à ses côtés dans ce film un certain Antonio Fargas, Guy les bons tuyaux, et également un autre rescapé des films de prison de femmes, Sid Haig, qui est dans les trois films de femmes en prison, il faut le souligner, et qui là se retrouve également dans Foxy Brown. Donc c'est lundi prochain, 22h40 sur Paris Première. Sinon, je savais pas qu'il existait et tout, quoi, mais enfin j'ai aussi appris dernièrement qu'il y avait un Police Academy 8 ou 9, un truc comme ça. Je me suis dit, tiens, mais je croyais qu'il n'y en avait que 7 et tout. Mais enfin, non,
ça, c'est de l'exploitation. C'est du tirage de corde.
Je ne savais pas. Et c'est un petit peu logique, car il date quand même de 2008. Donc, c'est un petit peu logique que je sois passé à côté. Sur NRJ 12, on nous propose Starship Trooper 3. Avec le retour de Casper. Casper est de retour dans Starship Trooper.
Le deuxième, si je me souviens bien, c'est un film d'animation.
C'est celui avec Richard Burgi. Qui est absolument excellent, que moi j'adore, hein, de toute façon, quoi. Qui n'a rien à voir avec le premier, quoi. Sinon, toujours le même truc, les bestioles.
On va casser de l'insecte. Hein.
Mais c'est reparti avec Casper et avec ses côtés, une jeune fille qu'on avait découvert dans la série Enterprise. Jolie Vulcaine, là, avec les formes rebondies, là, comme ça. Je veux dire
avec les seins en pointe.
Avec ce truc Jolene Blolock qui est également dans Starship Trooper 3. Donc ça fait au moins un motif valable, avec deux motifs valables de regarder Starship Trooper, Casper Van Diem et Jolene Blolock. Sur TF6, à 20h40, Cyclone Catégorie 6 de Dick Lowry. Dick Lowry qui est un spécialiste de ce genre de film.
Attention, ça veut pas dire que c'est un spécialiste des cyclones puisqu'il n'y a que 5 catégories, mais ça veut dire que c'est un spécialiste des téléfilms.
Non, de ce genre de téléfilms et également des mini-séries. Hein. Il a également fait quelques mini-séries qui sont pas dégueulasses. Hein. Ça va, c'est un bon faiseur. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de mec. Mais ça vaut peut-être par son casting avec Thomas Gibson. Thomas Gibson, c'est Notch dans Esprit Criminel et Brian Dennehy. Et quand il y a Brian Dennehy, on est obligé de jeter un coup d'œil. Sinon, lundi sur la chaîne Polar à 21h, il y a l'affaire de Trinidad de Vincent Sherman avec Rita Hayworth et Glenn Ford. Et si je te dis Rita Hayworth et Glenn Ford, tu vas tout de suite me répondre. Le gant Gilda, bien sûr. Et l'affaire de Trinidad, en fait, est une espèce de remake de Gilda avec les deux mêmes protagonistes principaux.
C'est marrant.
C'est fait par Vincent Sherman en 52. Et je vous avais dit la semaine dernière qu'il ne fallait pas confondre George Sherman avec Vincent Sherman. Vincent Sherman, c'est l'homme du retour du Docteur X. C'est son premier film avec Bogart en 39, il fait également échec à la Gestapo en 42 avec Bogart, il nous fait un Don Juan en 49 avec Errol Flynn, et ah, il nous fait également Lone Star avec Clark Gable en 51. Donc ça va, ouais, bonne petite carrière.
Ça a été le bon réalisateur de la Warner, lui. Hein.
Oui, tout à fait. Mais il n'a pas que travaillé pour la Warner. Mais il a touché un petit peu à tous les styles. Il a même fait une comédie musicale, mais qui n'est pas top, quoi. Mais bon, c'est un bon faiseur de série B, on va dire. Mardi sur Comédie. Alors, mardi, c'est la soirée On Rigole. Tout d'abord sur Comédie avec un des films qui a le titre le plus long de l'histoire du cinéma. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. C'est la traduction littérale du titre américain. C'est le Woody Allen de 72 avec John Carradine, Gene Wilder. En fait, c'est 7 sketchs qu'il y a dans ce film et qui racontent justement toutes les obsessions, les retenues que peuvent avoir les Américains à propos du sexe. À cette époque-là, en 72, donc ça vaut son pesant cacahuète.
Avec pas mal de moyens, d'ailleurs, pour l'époque, pour ce genre de film.
Avec un Woody Allen en spermatozoïde, complètement timide et tout. Mais je peux venir et tout. Enfin bon,
c'est assez
là. Il y a des scènes qui sont vraiment à se pisser dessus de rire, ça, et ça n'a pas pris une ride, hein, c'est ça qui est intéressant, de toute façon. Sinon, sur TV Braise, également, mardi prochain, 20h40, Arrête ou ma mère va tirer, de Roger Spottiswoode.
Excellent
navet avec Stallone qui se fait piquer la vedette par Estelle Getty qui joue le rôle de sa mère. Là, ça vaut vraiment son pesant cacahuète pour ça. Mercredi, on bourrine avec sur RTL9 Roadhouse de Roddy Harrington et le regretté Patrick Swayze, Ben Gazzara, Kelly Lynch. Ça vaut le coup quand même, quoi. Si vous l'avez jamais vu, Patrick Swayze, il dépote, il y va quand même. Jeudi, c'est Polar avec sur TPS Star. À 23h, au bout de la nuit de David Ayer un casting terrible, un petit polar vraiment excellent, hein, avec Keanu Reeves prend un petit peu un rôle à rebousse-poil, on va dire. Hein,
qu'il sort tu veux dire qu'il a une expression faciale ?
Ouais, il a quelques expressions, il joue pas mal et tout, il est bien dedans, mais à ses côtés, il a Forest Whitaker, il a Hugh Laurie, il a Chris Evans, donc ça va. Jeudi, on a également Gloria de Cassavetes sur Ciné Cinéma Star avec c'est le classique, hein, avec Gina Rowlands, Buck Henridge, John Adams, et sur la chaîne Polar à 21h jeudi prochain, L'Arnaqueuse de Peter Hall, un film anglais de 70 avec Ursula Andress, Stanley Baker et David Warner. On a également sur Action le film que on ne retiendra pas de Barbet Schroeder mais qui est quand même regardable parce que Michael Keaton en tueur en série, ça vaut le coup. Et Andy Garcia qui essaye de se démerder tant qu'il peut, hein, pour essayer de sauver sa fille, parce que Michael Keaton sait où elle est, mais il faut qu'il sorte et tout. Enfin bon, c'est pas mal, ça vaut son pesant cacahuète. Mais c'est vraiment un film de commande, hein, pour Barbet Schroeder et tout. Il y a vraiment pas sa patte dedans, il y a que dalle. C'est du pur Hollywood de toute façon, mais ça se laisse regarder quand même. Enfin, vendredi sur TPS Star à 20h40, Bon baiser de Bruges, dont j'ai parlé déjà ici, avec Brendan Gleeson, Colin Farrell, Ralph Fiennes, Clémence Poésy. Sur RTL9 à 22h20, Seven Swords, le Choi Arc de 2005, qui a signé son retour quand même avec le bon film de sabre de Hong Kong, avec Donnie Yen dans le rôle principal. Donc ça vaut le coup, hein, vraiment. Sur Sci-Fi, vendredi prochain à 20h45, Universal Soldier, avec JCVD bien sûr, et Michael J. White. Et sur AB1, de temps en temps, il faut quand même que je le cite, parce que ce film est l'un de leurs fonds de commerce à AB1, et je me demande s'ils doivent pas le passer au moins une trentaine de fois par année. C'est Les Guerriers de l'Ombre de John Cassar avec Hulk Hogan, Carl Weathers, Shannon Tweed, Martin Kove. Ça, c'est du gros bourrin et tout, mais ça se regarde, on rigolait un bon coup, il n'y a pas de problème. Ouais, créatif à fond, ouais. Sur Ciné Cinéma Classique, vendredi prochain, le retour du Docteur Mabouze avec Dahlia Lavie, Gert Fröbe, Lex Barker, et ce n'est pas un Fritz Lang, non. Fritz Lang a arrêté de tourner en 1960 et celui-là est tourné en 61 par Harald Reini, et il fait suite justement au dernier film de Fritz Lang, The Thousand Augen des Docteur Mabouze, Les Mille Yeux du Docteur Mabouze, qu'il a tourné en 60. et Fritz Lang qui avait refait ce film parce que on lui avait demandé qu'il fallait le faire et tout, mais bon, c'était vraiment à rebrousse, à reculons qu'il a repris cette série parce qu'il estimait que la deuxième série qu'il avait tournée, c'est-à-dire la série parlante, elle suffisait à elle-même, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Et puis en plus, il y avait eu la première série en muet, quoi. Donc de toute façon, il se disait bon, non. Puis bon, il s'est dit bon, je vais quand même le faire. Et puis bon, basta et tout. Et ça l'a peut-être dégoûté du cinéma, quoi. Pratiquement, quoi. Quoique, il est mort très très longtemps après. Il est mort en 76, hein, quand même, Fritz Lang. Mais auparavant, juste avant Les Mille Yeux du Docteur Mabuse, en 58, il nous avait fait deux parmi ses meilleurs films. Hein, Le Tigre du Bengale et Le Tombeau Hindou, donc dans un registre complètement différent, mais qui était absolument magnifique, hein, d'un point de vue visuel. Là, c'était vraiment la claque dans la gueule. Vraiment, c'était parmi ses meilleurs films, hein, Fritz Lang. Donc, Le Retour du Docteur Mabuse, c'est quand même à regarder, c'est quand même pas mal. Hein, c'est au niveau polar et tout, ça tient quand même un petit peu la route et tout. Il y a 2-3 embrouilles et tout, c'est bien foutu. Et D'aller à la vie, à l'époque, était très très regardable. Il faut le reconnaître, hein, D'aller à la vie, c'était pas qu'actrice, c'était également chanteuse, une chanteuse assez connue en Allemagne, hein, qui avait eu quelques petits tubes dans les années 60. On termine cette sélection cinéma à la télé avec vendredi prochain sur la chaîne Action. Une soirée Brut Lancaster avec l'excellent Bronco Apache de Robert Aldrich, où Brut Lancaster, il est Apache, donc il est indien, et Charles Bronson aussi, il est indien, et Jean Peters aussi, elle est indienne.
Et où ils vont manger des chips.
Oui, mais pas que, après le Bronco Apache à 22h25, toujours sur Action, vendredi prochain, The Hallelujah Trail, qui part sur la piste de la grande caravane par John Sturges en 65. Qui est regardable quand même, Brut Lancaster, c'est Brut Lancaster, donc ça vaut également son pesant de cacahuètes. Voilà, c'est tout pour la série cinéma de cette semaine.
13h05 dans le Super Weekend sur Radio FMR, on est en direct et on réessaye de pécho Thomas par téléphone, donc il faut que je remette des pièces dans la cabine. Désolé pour le son très désagréable que vous entendez, mais dites-vous bien que dans mon oreille c'est encore pire. On va les laisser s'installer dans un bar tranquille, etc. Sachant qu'il est 13h, donc c'est l'heure à laquelle tout le monde cherche un endroit pour manger. Et qu'il faut trouver un bar où il n'y a pas de musique ambiante, parce qu'ils mettent tous la sono à fond ou la télé. Et chaque année, c'est vraiment la galère pour trouver un endroit pour faire nos interviews tranquillement. Et puis, ils doivent avoir la dalle, puisqu'en fait, ils sont avec les jeunes collégiens du Conseil Général de la Charente, donc ils ont remis leur prix en collaboration avec Actua BD. We'll be right back. Ouais, c'est vrai que je l'ai utilisé des fois en générique de fin. C'est pas encore la fin. On va seulement vous annoncer tout simplement ce qu'il y a sur notre site. Suppléments-weekend.fr, sans accent ni tiret, suppléments-weekend.fr, et ben il y a nos chroniques écrites et tout ça, mais il y a aussi des liens, des choses qu'on a jugées extrêmement intéressantes, notamment depuis samedi dernier, une info qui est assez délirante, c'est que figurez-vous que il y a la nouvelle saison de Fringe qui va être diffusée aux États-Unis. Normalement je crois qu'elle commence cette semaine. Et il y a eu J.J. Abrams, ça fait un gag fabuleux. Ils ont annoncé que en fait il y avait une histoire de plusieurs vinyles. Tu achètes plusieurs fois le même vinyle, tu les passes en même temps, et c'est la grande époque, enfin tu sais quand tu as le professeur là qui est en plein dans ses recherches à base de LSD et tout ça. Et si on les passe en même temps, en fait il y a un début d'effet qui se passe. Et ben figurez-vous que les vinyles en question ont été retrouvés dans des magasins d'occasion. C'est-à-dire que J.J. Abrams a fait tirer les vinyles et a dit eh ben on les disperse et on les revend un peu au hasard et tout, comme dans Tirer à part en fait, hein, le film de Bernard Rapp. Et ça va permettre de faire la promo du film, c'est assez intéressant. C'est un article que l'on a mis en lien. Il y a un autre article à propos d'une autre série assez hallucinante. C'est The Wire qui a été attaqué par les autorités policières de Baltimore puisqu'elle était jugée comme trop réaliste. Et Simmons, le producteur de
David Simon,
excusez-moi, le producteur de la série, qui dit les autorités policières de Baltimore devraient plutôt se poser la question si est-ce qu'il faut vraiment faire de la fiction à la manière CSI, montrer la réalité. Et le problème de la réalité, c'est que c'est pas nos séries qui posent problème, c'est la manière dont justement la lutte contre les trafics de drogue se déroule dans certaines villes. Et est-ce que on a vraiment les moyens de lutter contre? C'est peut-être ça justement qui fait toute l'histoire. Donc ça fait partie des liens que l'on a mis. Il y a la chronique du manga Summer Wars adapté de l'animation. Diabolica par Christophe Kurita. On parlait des yokai français. Donc par Thomas, il m'a dit qu'il avait joint. Enfin, il a fait une interview de l'auteur. Donc ça va être extrêmement intéressant. Un article de Walter Murch. Peut-être que tu le connais, Duce. C'est un type qui a été le monteur de plusieurs films définitifs qu'on peut difficilement traiter d'incompétent, puisqu'il a fait Apocalypse Now et tout ça. Il a théorisé et mis en place le format son Dolby 5.1. Donc c'est quand même pas la moitié d'un imbécile, et c'est pas franchement quelqu'un qui n'aime pas le spectacle cinéma.
Et il a travaillé avec Lucas aussi, je crois.
Oui, il a un panel absolument délirant. Et là, il explique pourquoi, d'une manière définitive, la 3D au cinéma ne peut pas marcher. Et il explique d'une manière, même si on supprime les lunettes, même si on supprime ça, etc., il explique pourquoi il y a un problème, à la base, sur le principe du cinéma en 3D. Et c'est extrêmement intéressant. La chronique du Black Mirror.
Alors, pour revenir à ça, j'ai lu juste une petite phrase de James Cameron disait que la 3D, c'était la grosse merde.
Alors que lui, il a foutu les moyens justement pour tourner en 3D.
Que tous les films qui sortaient en 3D, quoi, c'était nul, que ça valait
pas. Là, il parle des autres en disant moi, je fais mieux. Quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Bah, voyons. Et dans les autres chroniques tout aussi intéressantes, je vais y venir. La plus courte saison de 24, c'est un fait divers absolument réel. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a eu un attentat à Moscou qui a été absolument catastrophique, puisqu'il y a eu plus de 35 morts, etc. Mais le groupe d'islamistes en question a tenté un attentat le 1er janvier. Où une femme devait jouer les kamikazes avec la ceinture d'explosifs et tout, branchée au téléphone. Malheureusement, c'était le 1er janvier, à minuit, et l'opérateur a envoyé ses vœux par SMS. Voilà, donc ça, c'est une histoire qui est sortie absolument stupéfiante et en même temps c'est complètement délirant. Enfin, comme on dit en Sicile, accident. Enfin bon, Thomas, es-tu en ligne ?
Oui, comment bonjour, rebonjour.
Rebonjour, j'espère que tu profites pleinement de la pluie qu'il y a dehors.
Eh bien ici, il ne pleut pas du tout. Le temps est à l'humidité, mais il ne pleut pas.
Ah bon, bah tant
mieux. C'est privilégié ici en Roulem.
C'est absolument déplorable. On va parler un petit peu de l'ambiance en Roulem et tout ça. Je suppose qu'il y a un max de monde.
Ah oui, là on est samedi, donc oui, tu peux bien te douter, toi qui as l'expérience de ce festival, que les gens sont arrivés en masse aujourd'hui, oui.
C'est pour ça que là, franchement, on regrette doublement de ne pas faire l'émission en direct à Angoulême, c'est que ça nous permettait justement de nous éloigner de la foule en général. Donc voilà, je suppose que tu es avec nos amis camarades de Actua BD.
Eh bien, j'ai avec moi le directeur adjoint du site actuabd.com, Didier Passabonic.
Bonjour Didier.
Nous sommes...
Tu veux servir ?
Ouais, bonjour, ça va ?
Oui.
Didier Passabonic d'actuabd.com.
Oui, bah oui, puisque c'est un site web à la base. Je te rassure, cette année, le site actuabd, il n'y a pas de problème. Il marche nickel.
Alors c'est
que
vrai ?
Alors que celui du festival, par contre, oula.
Oula, bah oui.
Bah oui, forcément. On va parler. Alors, j'espère que vous allez pouvoir vous débrouiller pour parler à deux au téléphone. On va parler un petit peu, je vais dire, outre de la présidence parue et tout ça. On en parlera la semaine prochaine, mais aussi des pays invités, puisque faut pas oublier que dans le FIBD, eh ben, il y a international et les pays
oui.
invités. Étonnamment, c'est la Chine autour de la Chine communiste. C'est-à-dire, c'est Hong Kong et Taïwan.
Oui, absolument. La délégation chinoise est absolument impressionnante. Il y a une quinzaine de dessinateurs de Taïwan et une vingtaine de dessinateurs de professionnels de Hong Kong et notamment il y a le directeur par exemple de la Fédération des éditeurs et des producteurs de dessins animés de Hong Kong. Ils ont de très très gros projets. Il y a un projet de musée de la BD à Hong Kong, de faire un centre de l'image, un peu comme la cité de la BD à Angoulême, qui fait la preuve qu'Angoulême est devenu une espèce de modèle de développement pour la promotion culturelle de la BD dans le monde. Quoi.
D'accord.
Parmi les autres délégations, il y a aussi une quinzaine de Coréens et également... une dizaine de Turcs qui sont venus. Il y a également une délégation arménienne de trois auteurs de BD. Donc, effectivement. Et puis les États-Unis sont assez présents puisque l'ambassadeur des États-Unis est venu inaugurer l'expo Snoopy qui est sur le parvis du musée de la BD. C'est vraiment international cette année.
Oui, cette année c'est vraiment international. Et c'est un peu ça qui nous avait, que Thomas m'avait dit qu'il avait un petit peu surpris. Et puis du coup, j'ai revu la liste des éditeurs qui sont présents. On a une discrétion des éditeurs manga cette année. Il n'y a pas le Manga Building. Tonkam n'est pas présent, étonnamment. On a fait une interview de Sébastien Agogué qui va être bientôt publié sur Actua BD. Est-ce que le festival justement de ce côté-là a voulu ne plus séparer le manga ou est-ce que ce sont les éditeurs qui boudent d'après toi ?
Je pense qu'il y a un changement de pied, appelons ça comme ça. C'est-à-dire que ce n'est plus la même équipe qui gérait les mangas avant, qui aujourd'hui la gère. Ils ont fait appel à un ancien Tonkam justement qui s'appelle Erwan Leverger.
Qui était très actif de l'époque de Dominique Verret et donc la deuxième époque.
Droit. C'est ça, c'est un peu le bras droit de Dominique Verret à l'époque. Et donc, je pense qu'il y a une volonté du festival de réintégrer le manga dans le flux général des stands de BD et pas de les ghettoiser, si je puis dire, à l'espace Franquin où ils étaient avant, un espace qui de toute façon n'était pas très adapté ni en termes ergonomiques, ni en termes de ce que le manga peut signifier, et notamment au niveau du développement des univers annexes au manga, ce qui est un peu donc c'est un peu l'ambition du festival. Donc en fait, ce désenclavement des mangas pour les réintégrer dans le flux normal du festival est à la fois un signe, je dirais, de rationalisation et en même temps un signe d'ambition pour des développements futurs. Cela dit, de tous les retours qu'on peut avoir, c'est un peu le flop cette année. C'est aussi peut-être dû au fait que les mangas, il y a un tassement du marché des mangas, hein, qui fait qu'ils sont peut-être moins attractifs. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde observe ce qui se passe parce que on compare évidemment la zone manga du Festival International avec Japan Expo, qui est infiniment plus dynamique et plus diversifié, surtout beaucoup plus centré sur l'intermédia, c'est-à-dire la déclinaison des univers de bande dessinée sur les jeux vidéo, sur les dessins animés, etc., ce qui n'est pas vraiment le cas au festival ici, et même si ils ont l'ambition de le faire, peut-être qu'ils n'en ont pas les moyens.
Oui, on en reparlera, je pense, surtout sur le site ActuaBD de ça, puisqu'il y a un dossier qui est en cours d'écriture qui devrait peut-être sortir, je dirais, en soirée. Accessoirement, il y a eu aussi... c'est un gag, c'est hallucinant. On apprend que l'éditeur, l'association, est en grève. Enfin bon, ça n'a rien de drôle, mais la manière dont il y a eu le coup d'éclat sur le stand... Ça a quand même une visibilité qui a dû surprendre tous les habitués.
Ça frappe les imaginations. Alors l'origine de ça, c'est que la surproduction qu'on constate ces dernières années a surtout été très importante au niveau des éditeurs indépendants. C'est-à-dire que dans le même temps que les éditeurs classiques doublaient leur production, les éditeurs indépendants l'ont multiplié par 10.
Et donc, je croyais que c'était exclusivement les éditeurs manga. Non, c'était général.
Le grand moteur, quand on regarde par exemple cette année dans le rapport Raquet, on voit que les grands éditeurs ont été plus ou moins sages, les producteurs de manga également, c'est-à-dire que à quelques unités près, ils ont produit le même nombre de titres que l'année dernière. En revanche, le segment qui est en plus grosse progression, ce sont les éditeurs indépendants. Et donc, au fond, il y a une crise des éditeurs indépendants parce qu'ils se bouffent un peu eux-mêmes. Et donc, cette crise impacte sur le marché. Et surtout, il s'est passé un événement très important fin décembre. C'est ActuaBD, évidemment, qui avait lâché l'affaire au début décembre en découvrant... le principal distributeur des labels indépendants qui s'appelle le comptoir des indépendants a décidé de déposer le bilan au 31 du 12. Ce qui veut dire que des tas de petits éditeurs indépendants se trouvent sur le carreau. Et la raison principale pour laquelle le comptoir des indépendants a cessé de son activité, c'est que son principal pourvoyeur est l'association. Et l'association a décidé de réduire la voilure. Donc, en réduisant la voilure et le chiffre d'affaires, forcément, elle réduit le chiffre d'affaires de son distributeur, qui l'a rendu moins concurrentiel. Et donc, c'est un peu technique d'expliquer tout ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'association, réduisant sa production, a été amenée à virer des employés. Ils sont pas beaucoup, ils sont 7. Il faut dire que le management n'a pas été très très subtil, c'est-à-dire qu'ils se sont adressés aux 7 employés en disant choisissez parmi vous qui doit partir, ce qui est vraiment une gaffe, on peut dire. Et donc immédiatement derrière, il y a eu une grève des employés d'association qui sont vraiment inquiets pour leur avenir, qui sont inquiets également pour l'avenir d'un label qui a été un label marquant dans l'histoire de la BD ces dernières années. Et donc ça s'est prolongé au niveau du festival et ça donne une visibilité impressionnante parce que quand on va sur le stand de l'association, il n'y a pas d'album, ils ont un stand mais il n'y a pas d'album à vendre. Et en revanche, il y a des grandes pancartes marquées personnel en grève. Et donc on n'a jamais vu ça dans le monde. Et les cartons d'albums sont là au centre les albums sont au centre du stand, mais personne n'a le droit de les acheter. Et effectivement, ça frappe les imaginations. On n'a jamais vu ça de mémoire dans Goulême.
C'est clair que là, pour une fois, ils ont encore une fois créé l'événement et d'une manière plus que visible. Il y a aussi autre chose, tu en as parlé mercredi dernier sur le site, et c'est vrai que ça, pour ceux qui ne vont pas au festival, ils s'en rendent pas compte, mais Angoulême, c'est vraiment une ville qui vit autour du festival avec des lieux assez grands, et notamment cette cité de la BD, les chais qui ont été créés. Et là, ce que l'on a vu, c'est que sur le site de la cité de la bande dessinée, aucune allusion au festival avec marqué en fait que ils n'ont pas le droit d'en parler, tout simplement.
Mais oui, c'est l'autre.
Alors quand le maire,
c'est l'autre. Pardon,
excuse-moi, mais quand le maire de la ville d'Angoulême disait que la cité de la BD, les organisateurs, c'est-à-dire la société 9e art, sont condamnés à s'entendre, on se dit, oula, c'est comme deux chats qui se regardent en grognant, quoi.
Je pense qu'il y a un problème qui est fondamental, effectivement. Il y a réellement une concurrence entre la cité de la BD et le festival. Qui est plus une question de mésentente, mais je vais donner une autre explication tout à l'heure. Mais donc, pour les faits, le festival a envoyé une lettre faisant l'injonction à la cité de ne faire aucune mention aux événements du festival sur le site de la cité de la BD, y compris pour les expositions qui sont hébergées par cette même cité.
Oui, c'est pour ça que c'est hallucinant.
C'est énorme. Donc personne ne comprend cette attitude impérialiste et complètement autoritaire de la part du festival. C'est inexplicable. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a en ce moment un contrat en cours de négociation entre la cité et le festival, c'est-à-dire une espèce d'accord, de modus vivendi entre les deux entités. En fait, le festival refuse que la cité, par exemple, fasse appel à des sponsors pour ses expos ou pour ses propres événements. C'est inacceptable pour la cité, puisque c'est comme si on disait au Louvre, vous pouvez pas faire appel à un sponsor, à une banque ou à quelque chose comme ça pour financer une de vos expos, et elle se retrouverait seulement tributaire des subsides, des fonds publics, alors que ces fonds publics, tout le monde le sait bien, sont plutôt en plutôt tendance à baisser vu la situation budgétaire de l'État. Donc il y a là une aporie ou une impossibilité. Le préfet de Charente avait promis que le contrat serait signé à la fin du mois, c'est-à-dire pour le 31 janvier. En fait, le contrat n'est pas signé. Le conflit est ouvert et surtout, il est sur la place publique. Depuis cette injonction faite par le FIBD à la cité.
Oui, et pour avoir un petit peu côtoyé l'actuel président de la cité de la BD, on peut dire que c'est quelqu'un d'un petit peu, je vais dire, entier.
Donc c'est pas seulement ça. Ce qu'il faut, il y a une lecture politique à faire derrière ça. Il faut être très conscient de ça. C'est que le festival, en gros, a le soutien du ministère de la Culture et donc Sarkozy, situé à droite, tandis que la cité est complètement financée ou essentiellement financée par le Conseil général de Charente, qui est plutôt à gauche, et une présidente de Poitou-Charente qui est Ségolène Royal. Et en réalité, ce qu'on est en train de payer là, c'est cette espèce de bataille larvée qui est le propre de la période qui précède les présidentielles. Et donc, c'est ça qu'il y a là derrière, faut être conscient. Et donc, la BD en pâtit, évidemment.
Alors, il y a aussi autre chose qui m'a énormément surpris, et à mon avis, je pense que mes collègues journalistes, mais qui, eux, sont salariés par leurs journaux, ça a dû les révulser, c'est que le palmarès principal, puisque en fait le palmarès officiel du festival, les TIFOV, désormais sont coupés en deux, puisqu'il y a le palmarès jeunesse qui a été remis hier, et le palmarès principal, ça n'aura plus lieu le samedi soir, ça n'aura plus lieu le dimanche midi, mais le dimanche soir. Mais qui sera encore présent dimanche soir?
En fait, c'est le dimanche à 16h, c'est pas nouveau, c'était déjà le cas l'année dernière. Et donc, oui, il y a la moitié des journalistes qui sont déjà repartis pour Paris. Mais il semble que ça convient au festival, donc on est bien obligé de suivre. En tout cas, pour ActuaBD, nous aurons des gens qui seront là
encore dimanche soir et jusque lundi. Donc nous, on est là pour couvrir. Effectivement, ça a un impact sur les rédactions et les journalistes n'ont plus le droit de rentrer le dimanche soir chez eux maintenant. Comme le font les festivaliers.
Oui, c'est un petit peu triste. Je vais dire surtout pour le public qui vient que le samedi et qui n'est pas au courant donc de la remise du prix.
Cela dit, le public n'assiste pas à la remise du prix parce que c'est avec les places sont comptées, elles sont même contingentées.
Oui, donc, puisque c'est dans le théâtre et qu'il n'y a pas plus de 300 places dedans. Hein.
Voilà, voilà.
Alors, il y a l'officiel et puis il y a le off. Et il y a ce prix qui, pour la troisième année consécutive, est co-organisé par Actua BD, mais surtout par le Conseil Général des Jeunes de la Charente, par des collégiens qui sont élus par leur père dans tout le département de la Charente, et qui donc ont désigné leur BD coup de cœur sur une présélection de la rédaction d'Actua BD.
Alors, pour Actua BD, nous, on est très très attachés à ce prix, parce que, je sais pas si vous le savez, donc ces élus en fait constituent un parlement qui est susceptible de légiférer, qui propose des lois, et ces lois sont proposées au vrai Parlement, c'est-à-dire au Parlement, et donc c'est une façon d'intéresser les jeunes à une attitude citoyenne et à comprendre le fonctionnement de la démocratie, très très important. Donc nous, on est très très attachés à ce partenariat pour ça, et effectivement, parmi ces élus, il y a un certain nombre de candidats au jury et il y a un tirage au sort qui est fait, et puis 5 membres du Parlement deviennent jurés, et ces 5 membres reçoivent au cours du mois de décembre une présélection qui est faite par la rédaction d'Actua BD, et cette présélection propose 5 titres, et donc dans ces 5 titres ils ont élu cette année Freak Squeal de Florent Modou, pardon, et chez Ankama, et avec un coup de cœur pour Zombilenium de Arthur de Pinch et Dupuis. Et voilà, donc.
C'est vrai qu'en fait, la rédaction en interne a des a priori au départ sur les bouquins qu'il faut leur présenter. Ils ont environ 14 ans en moyenne. Et chaque année, puisque c'est vrai que les deux années précédentes, on avait la chance de les avoir en direct, de pouvoir faire l'émission en direct d'Angoulême avec le jury et qui nous explique et qui nous motive leur choix. Et aussi, en plus, la surprise d'avoir les auteurs qui leur décision politique sur laquelle ils voient immédiatement quelle influence elle peut avoir. Et à chaque fois, on est surpris par la maturité des bouquins qu'ils choisissent, parce que Freak Squeal, c'est pas vraiment le plus jeunesse de tous. Ni Zombilenium.
Oui, mais c'est en même temps le plus caractéristique d'une réalité d'aujourd'hui. Ankama n'est pas un pure player dans la bande dessinée, puisque c'est d'abord un producteur de jeux vidéo et de dessins animés, et l'édition est un peu un dérivé de leurs activités principales. Et en même temps, ce sont des gens qui sont attachés à ce qu'on appelle le transmédia, c'est-à-dire à ces univers qui se déclinent aussi bien sur le papier que sur les écrans de jeux vidéo et de dessins animés. Et donc, c'est pas par hasard que ces jeunes ont adhéré à cette bande dessinée-là, parce qu'elle est caractéristique de là où va la BD aujourd'hui, c'est-à-dire vers du transmédia. De plus en plus, les personnages sont animés sur l'écran, deviennent des jeux vidéo. Et comme Ankama est un acteur fort dans ce secteur, effectivement, on peut comprendre que les enfants aient voté ça, parce que ça correspond à l'ère du temps, à leur ère du temps.
En tout cas, ce sont deux excellents choix qu'ils ont fait et ça nous fait énormément plaisir. Est-ce qu'ils ont eu la chance de rencontrer Arthur Depin et Florent Modou?
Ça s'est pas fait pour Arthur Depin parce que c'était pas lui le lauréat, mais en revanche, non seulement ils ont eu la chance de rencontrer Florent Modou, mais ils se sont fait photographier avec lui et cerise sur le gâteau, ils ont pu faire dédicacer leur album. Donc,
Oui, mais Florent Modou, on l'a eu en interview l'an dernier, c'est une patte et il est adorable, quoi. Donc, je suppose que ça a vraiment dû lui faire plaisir.
Mais ça a été difficile parce qu'en fait, il faut savoir qu'il est dédicacé, en fait, il a pas pu venir au Conseil Général où on remettait le prix. On est allé lui remettre
à l'endroit où il dédicaçait, parce qu'il y avait une horde de fans qui avaient tous pris leur ticket et qui faisait qu'il était vissé sur place, Florent. Et donc, et on sentait bien que Derek, quand il s'est mis à signer les 5 albums pour les membres du jury, derrière, il y a tout de suite 10 personnes qui se sont mis pour essayer de faire signer dans la foulée. C'est dire que ils ont eu de la chance, parce que c'est un dessinateur très très sollicité.
Bah tant mieux pour lui, et tant mieux aussi donc pour les membres du jury du prix du Conseil général des jeunes de la Charente. Et donc, eh ben, encore mille merci à nos amis d'Actua BD de nous avoir quand même donné une présence là-dessus. Merci énormément, Didier. J'espère pour toi que cela se passe très très bien. Enfin, je te pose même pas la question, parce que toi, je suppose que tu es avec ton costard, ton petit verre de boisson pétillante et en train d'avoir les dernières confessions et de se connaître à l'avance l'activité éditoriale sur les deux prochaines années.
Il y a une folle rumeur pour le Grand Prix, hein. Je sais pas si t'es au courant, vraiment ça court, hein.
Non,
ça court
partout. Non, non,
le Grand Prix serait remis à Jean-Christophe Menu.
Ah, ça tombe bien, on n'a jamais remis le prix à un maquettiste.
Oui, bah, ouh la méchanceté là. Bon, ce sera probablement pas lui à l'arrivée. On parle beaucoup aussi d'Arch Spiegelman, mais du fait des ennuis de l'association, effectivement, c'est une rumeur qu'on soupçonne d'avoir été diffusée par Lewis Trondheim. Mais c'est la rumeur qui court, et elle nous est parvenue par des membres du jury qui sont non suspecto, comme on dit.
Au-dessus de tout soupçon.
Voilà, au-dessus de tout soupçon. Et donc, si ça s'avérait être une réalité, ce serait énorme quand même.
Voilà. Eh bien, écoute, Didier, je te remercie énormément. Tu remercieras Thomas de notre part. Je
vous souhaite Thomas, vous remercie également.
Voilà, donc on vous souhaite un bon salon, un bon festival. Thomas, on le retrouve la semaine prochaine. En plus, il aura donc le festival Madinazi avec un invité en direct sur le plateau. Et puis toi, ben comme d'habitude, hein, si tu viens sur Toulouse, tu es le bienvenu et on sera très heureux de t'accueillir.
J'adore Éphémère.
Ville dragueur.
À bientôt.
Merci Didier, donc vice-directeur donc de actuabd.com, avec qui nous faisons qui est partenaire, pardon, excusez-moi, pour de la couverture du Festival d'Angoulême, pour donc le supplément week-end sur Radio FMR. Il est 13h37, c'est la minute lit. Et de suite, je vais céder la place à du sport, puisque Souchinette est arrivé pour la partie purement du sport. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine. Pardon ?
Et on fait pas la fin, là ?
Je te laisse faire. Allez, hop.
Ah bah, alors, je vais essayer d'imiter Xavier.
C'est Thomas d'habitude. Du sport,
peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route? Mais bien sûr, Xavier. Alors, on a eu un cours de prononciation des noms coréens par Xavier. Une éloge funèbre. Une pub gratuite pour une chaîne hôtelière. Une avalanche de pesantes cacahuètes. Une masse baladeuse. Un morceau des Wampas. Et un monologue téléphonique de Didier Passamonique à faire exploser le forfait de téléphone.
Mais il n'y a pas de problème, hein, de ce côté-là. Et on est habitué. Et si justement on a ça a été décalé, c'est qu'il a fait de même pour une émission de radio et une émission de télé. Et le pauvre Thomas qui essayait d'en placer une. Oui, mais je... Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission ainsi que nos notes écrites sur le site web suppléments weekend.fr sans accent ni tiré. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. La couverture en continu du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et l'actualité toute l'année de la bande dessinée, c'est sur le site actuabd.com. En attendant, vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM, et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, le festival Made in Asia à Toulouse. Ciao, bye bye.